Bonsoir et bienvenue dans cette émission. C'est mercredi 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Certaines études ont montré que cette violence s'était multipliée au cours du confinement dans de nombreuses régions du monde. En RDC, cette journée est aussi celle du lancement de la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes. Au Sud-Kivu, par exemple, les organisations des jeunes appellent à une mobilisation de tous pour lutter contre toute forme de violence faite à la femme et à la jeune fille. Comment appréciez-vous la lutte contre les violences faites aux femmes et à la jeune fille en RDC? C'est l'objet de l'émission de ce soir. Et nous recevons Madame Béatrice Loméa, qui est ministre d'État et ministre du Genre, Famille et Enfants. Bonsoir, Madame Béatrice Loméa.
Bonsoir, Guy Mathé.
Madame Eve Bazaïba, elle est députée nationale et secrétaire générale du parti politique MLC. Bonsoir, Madame Eve Bazaïba.
Bonsoir.
Et Godé Kayembe, il est président du conseil d'administration de la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves, l'ISADEL en sigle. Bonsoir, Monsieur Godé Kayembe. Bonsoir, Monsieur Godé Kayembe. Voilà, il va nous rejoindre. Bonsoir. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
C'est le 5 novembre, c'est la journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes, mais aussi le lancement de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Les organisations des jeunes du Sud Kivu appellent à une mobilisation de tous pour lutter contre toute forme de violence faite à la femme et à la jeune fille. Une organisation dénommée Pamoja RDC tire une sonnette d'alarme en direction du gouvernement congolais, des organisations locales, nationales et internationales. Maître Abraham Nzongu, chargé des suivis et organisations à Pamoja RDC propose des pistes de solutions. Il est au micro de Rachel Kiesembangu.
La plupart des violences que subissent les femmes, ce sont les violences conjugales actuellement, parce que nous venons d'une période de la maladie à coronavirus. Mais ici chez nous en RDC, il y a plusieurs formes de violences. Les violences sexuelles, les violences physiques et les violences économiques, qui est de priver la femme de ses droits, de faire des commerces, de chercher un emploi. À cet effet, pour bien débuter la campagne de ces jours d'activisme, l'organisation Pamoja RDC a lancé un appel. Et c'est un peu de s'approprier, de vulgariser le message, vulgariser des lois qui prônent les droits de la femme et de la jeune fille. En République démocratique du Congo, nous avons des lois qui promettent l'élimination de la violence à l'égard des femmes, notamment la loi sur les violences sexuelles de 2016. Il y a la résolution 1325 des Nations Unies qui fait que la femme soit une pionnière du changement à travers la sécurité et la paix.
Notez que cette année, la journée de lutte contre les violences faites aux femmes est célébrée sous le thème « Tous unis, arranger le monde, financer, intervenir, prévenir et collecter ». Béatrice Loméa, vous êtes ministre d'État et ministre du Genre, Famille et Enfants. Et chaque année, à cette date, le monde consacre cette journée à la lutte contre les violences faites aux femmes et à la jeune fille. Qu'est-ce qui vous inspire cette initiative?
Bien, merci Guy Mathé. Cette initiative est tout à fait louable puisqu'il s'agit d'une période pendant laquelle 16 jours, comme on dit, 16 jours d'activisme, c'est un moment pendant lequel le monde entier est mobilisé pour une campagne où on donne de la voix pour dire qu'il est possible de vivre dans un monde où il n'y a pas de violence à l'égard des femmes. C'est un moment où les États, mais aussi toutes les organisations qui œuvrent dans la lutte contre les violences, haussent le ton effectivement pour faire entendre les voix des femmes, mais aussi pour engager la responsabilité des auteurs de ces violences faites aux femmes qui sont au fait des violences des droits humains. Je pense que c'est un moment très important puisque c'est un focus, un moment où l'attention du monde entier est vraiment retenue sur cette question qui est essentiel, parce que comme nous l'avons dit tout haut, ces violences faites à l'égard des femmes sont des violations des droits humains.
Oui, nous sommes dans un contexte particulier, hein, le contexte de la pandémie de Covid-19. Il est dit que pendant le confinement, les violences à l'endroit des femmes et de la jeune fille ont augmenté dans beaucoup de zones à travers le monde. D'abord, qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène, Madame Loméa? Et est-ce que ce phénomène est aussi observé dans notre pays, la RDC?
Oui, la RDC n'a pas fait exception. Ce phénomène est expliqué par le fait que nous avons, par exemple, eu des confinements ici dans notre pays, ce qui est d'ailleurs le cas à travers le monde aujourd'hui. Et vous savez que pendant ce temps, les hommes, les femmes ont eu plus de temps à passer ensemble, alors que par le passé, lorsqu'on n'avait pas la pandémie, chacun pouvait sortir le matin et aller dans ses occupations. Il y avait moins de temps à passer ensemble. Mais le fait qu'il y ait ces longs moments, ça a effectivement accru des tensions, avec comme conséquence, vous savez, ce sont les femmes qui ont été victimes. Et ça n'a pas été une exception pour notre pays. Nous avons enregistré aussi ces violences. C'est vraiment, il n'y a pas que ça. Il y a eu des violences conjugales, mais il y a aussi d'autres violences à l'égard des femmes sous forme de mariages précoces, par exemple, et de grossesses non désirées. Et aujourd'hui, on déplore le fait que, par exemple, le fait que les enfants soient restés à la maison pendant longtemps sans partir à l'école. Dans plusieurs coins de la République, aujourd'hui, on recense pas mal de grossesses précoces, des grossesses non désirées. Donc, ça a été effectivement un moment qui a eu un impact négatif sur les femmes. Et le fait que tous, on a été obligés de rester ensemble pendant longtemps, ça a accru les tensions. Mais déjà, le fait qu'il y a eu un impact économique et tout ça, ça s'est entré en ligne de compte. Et ça a eu un effet négatif sur, effectivement, les femmes, à ce qui concerne les violences qui s'exercent à leur égard.
Voilà. Et quelle est l'appréciation que vous faites des efforts fournis jusque-là par la RDC dans la lutte contre ces violences faites aux femmes et à la jeune fille?
Oui, il faut dire que la lutte contre ces violences, c'est un travail de longue haleine, hein, puisque comme nous le savons très bien chez nous, c'est des choses qui tirent aussi leur origine dans nos us et coutumes. Et nous travaillons, c'est vrai, aujourd'hui, nous avons des textes qui garantissent effectivement la lutte contre les violences, puisque s'il faut même commencer par notre constitution, vous allez effectivement voir qu'à l'article 14, à son alinéa 3, les pouvoirs publics sont appelés à prendre des mesures pour lutter contre toute forme de violence faite à la femme et à la fille dans la vie publique et privée. Il y a des lois, mais il y a aussi la convention que nous avons ratifiée pour l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes. Mais c'est vrai, nous travaillons, puisque avoir les lois, c'est une chose, l'application, ça n'est une autre, et donc le gouvernement de la République est toujours sur la sensibilisation. C'est ce qui motive d'ailleurs l'adoption par le gouvernement de la nouvelle stratégie que nous avons pour lutter contre ces violences basées sur les genres. Donc, l'effet est réel, mais nous sommes déterminés, on est engagés à continuer à sensibiliser puisque c'est un travail de longue haleine. On avance à petits pas, mais au moins aujourd'hui, ce qui est vrai, la question est à l'ordre du jour, les dénonciations sont là, mais nous continuons à travailler.
Un travail de longue haleine, comme vous venez de le dire, mais que renseignent les statistiques dont disposent les différentes structures étatiques de la RDC? Est-ce qu'il y a baisse de ces violences? Est-ce qu'il y a augmentation ou la situation est restée la même depuis environ 5 ou 10 ans?
Bon, il faut dire qu'il y a augmentation, parce que le fait qu'il y ait suffisamment de sensibilisation, ça a également favorisé la dénonciation, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est vrai, il y a quelques années, ça n'a pas été possible, c'était des tabous, on n'en parlait presque pas, mais le fait que et le gouvernement et les organisations de la société civile ont martelé, continué à sensibiliser qu'il faut dénoncer, je pense que ça, c'est la conséquence normale aujourd'hui, c'est que les statistiques sont en hausse, et nous travaillons effectivement du fait qu'il y a ces problèmes que sur la mentalité, nous parlons de l'aspect justice aussi, et nous sommes sur tous ces fronts. Donc aujourd'hui, les statistiques sont effectivement en hausse, et nous travaillons pour avoir une baisse dans les années qui viennent.
Comment vous vous sentez dans les différentes structures de l'État congolais qui sont, n'est-ce pas, chargées de lutter contre ces violences? Est-ce que vous ne vous sentez pas abandonné par le gouvernement? En fait, je pose la question pour justement évoquer la part que l'État congolais, la part du budget que l'État congolais réserve à la lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille.
Bon, la sensibilisation s'est faite au niveau même des décideurs, et ça c'est la question que je porte, hein, parce que j'ai dit c'est vrai, c'est une question de la volonté politique. Et si nous disons qu'effectivement nous avons affirmé dans la Constitution l'obligation des pouvoirs publics de lutter contre ces violences, il faut que les moyens suivent, et donc ça c'est le combat de tous les jours, et nous pensons que ça finira par se concrétiser, puisque ça n'aura pas de sens d'affirmer une chose et ne pas mettre les moyens qui permettent d'atteindre l'objectif. Donc c'est les plaidoyers que nous faisons tous les jours, et comme c'est de la responsabilité du gouvernement, nous pensons que nous allons effectivement trouver une oreille attentive et nous devons continuer pour que les femmes jouissent pleinement de leurs droits. C'est plus de la moitié de la population, et on ne peut pas s'attendre à un développement durable lorsque plus de la moitié de la population ne jouit pas totalement de ses droits et n'est pas en mesure de donner sa contribution.
Merci. Madame Mazaïba, vous êtes députée nationale et secrétaire générale du parti politique MLC. Vous êtes impliquée depuis longtemps, n'est-ce pas, dans la promotion des droits de la femme. Et comment vous appréciez les efforts du gouvernement congolais dans la lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille?
Oui, merci. Les efforts du gouvernement congolais et de tout ce qu'il y a comme activiste des droits humains, notamment la promotion et la protection des droits spécifiques des femmes, il y a des avancées. Il y a des avancées dans notre pays. Malheureusement, ces avancées considérables sont à comptabiliser seulement dans les domaines juridiques des lois. Il y a la Constitution, il y a le Code de la famille qui a été modifié. Nous avons tenu compte de la Convention de lutte contre les discriminations faites aux femmes, ratifié par la République démocratique du Congo, évidemment, avec tout ce qu'il y a comme normes internationales. Mais la pratique pose problème. Aujourd'hui, si nous allons dans les statistiques, nous allons remarquer malheureusement qu'il y a prolifération justement des violences faites à la femme. Nous pouvons citer les cas des viols, les violences sexuelles où nous pensions que l'action croisée que nous avions faite, il y a le gouvernement, les institutions publiques, je voudrais dire, et les ONG, on ne pouvait même plus en parler, mais la situation s'est répandue, même dans des zones où, on peut dire, les zones de paix, entre guillemets, où il y a la criminalité, mais là-dedans, on remarque plus les cas des violences sexuelles faites à la femme.
Vous dites qu'il y a, des avancées considérables sur le plan normatif, vous avez évoqué un certain nombre de textes, mais que le problème se pose dans la pratique. Et à votre avis, vous qui êtes sur le terrain, vous qui observez les phénomènes, quels sont les pesanteurs qui font que la RDC n'arrive pas, n'est-ce pas, à évoluer positivement dans la lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille?
Les pesanteurs, c'est au niveau de la gouvernance du pays. C'est pourquoi même nous avons les actions pour dire que pour éliminer les violences faites à la femme, il faut faire un effort pour atteindre les objectifs de développement durable. Ça va nous permettre de mettre fin à ces violences. Pourquoi ? La pauvreté est un élément. La lutte contre la faim, les difficultés d'accès aux soins de santé, il y a des problèmes d'éducation, des problèmes d'égalité des sexes et même l'énergie. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez imaginer que les femmes sont comptées parmi les personnes violées tout simplement par manque d'électricité et aussi manque d'eau? L'accès aux services de base, il n'y en a pas. Une femme et des petites filles qui vont aller chercher de l'eau à 2h du matin ici à Kinshasa ou ailleurs sur toute l'étendue du territoire, elles se font violer, elles se font assassiner. Donc vous voyez la pauvreté, manque d'énergie, manque d'eau, manque d'emploi décent, il y a des problèmes économiques, hein. Tout ça, ça pose problème et les femmes en sont victimes. Donc c'est la gouvernance qui est l'une des causes majeures, la mauvaise gouvernance.
Lorsque vous parlez de la gouvernance, vous voulez donc parler de la volonté politique?
Au-delà de la volonté politique peut être là, mais il faut avoir aussi la gouvernance. Par exemple, lutter contre la corruption. Essayer de canaliser les ressources de l'État dans le trésor public pour les orienter vers le secteur social, la facilité d'accès aux soins de santé, comme je l'ai dit, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, à un habitat décent. Tout ça, les femmes en sont victimes parce que, du coup, quand il y a l'absence de l'État dans la gouvernance, les femmes prennent les devants. C'est une violence. Les femmes prennent les devants et c'est elles qui s'occupent de la survie de la famille, tous les poids. Toute la responsabilité de la survie de la famille, c'est entre les mains de la femme. Et cette femme-là, c'est elle qui est victime. Elle se lève à 4h du matin pour aller chercher la survie de la famille. Elle rentre tard, elle dort tard, mais elle doit encore s'occuper de sa famille, doit s'occuper de son mari, doit s'occuper des malades, doit s'occuper des personnes avec handicap. Et elle-même, elle n'a pas le temps pour sa santé, elle n'a pas le temps pour s'occuper d'elle-même. C'est une autre forme de violence. Mais si jamais le pays était bien gouverné et que le pays avançait vers l'atteinte des objectifs de développement durable, la femme va se sentir soulagée. S'il y a l'énergie, ça permet à la femme de conserver sa production, ça permet à la femme de transformer sa production, je parle plus ici de la femme rurale, et de donner la valeur ajoutée à sa production et de permettre aussi de faire accéder ses enfants à une éducation qu'il faut, aux soins de santé qu'il faut, avoir un habitat décent. Je crois que là, nous allons avoir des pas considérables vers l'élimination des violences faites à la femme.
Et quelle est la part de la victime dans cette lutte, hein? Parce que certains experts ont toujours pensé que dans ce processus de lutte contre ces violences, il y a la part de la victime. Est-ce que vous avez constaté un changement d'attitude de la part de certaines victimes? Est-ce qu'il y a, beaucoup plus de dénonciations de leur part actuellement comparativement à la situation des 5 ou 10 dernières années où les victimes préféraient garder silence soit par pudeur, soit par peur des représailles? Est-ce qu'il y a, une évolution de la part des victimes? Est-ce qu'elles ont maintenant le courage de dénoncer?
Elles ont le courage de dénoncer aujourd'hui par rapport à la situation que nous avons vécue hier. Je peux vous donner un exemple. Hier, j'ai suivi dans le média une petite fille ici à Kinshasa de 7 mois, s'il vous plaît, 7 mois, qui a été violée par une personne avec laquelle il vivait à la maison. Et la maman n'a pas eu honte de venir dénoncer. Elle a dénoncé, elle s'est présentée à visage découvert, elle a présenté aussi l'auteur de ces exactions, donc nous avons ce genre d'avancée. Mais les victimes ont besoin d'encadrement. Il ne suffit pas de dénoncer, il suffit encore d'encadrer la victime du point de vue santé, du point de vue psychologique et aussi judiciaire. Parce qu'il faut qu'il y ait des sanctions. Tant qu'il n'y aura pas de sanctions, j'ai comme l'impression que plus on dénonce les violences par les médias, plus on en parle, il y en a des présumés auteurs qui veulent tenter un peu l'expérience de ce genre de violence. Et ici, nous ne parlons pas seulement des violences sexuelles, même des violences au niveau de lieux de travail. De plus en plus, il y a des dénonciations où vous avez des femmes qui prennent le courage de dénoncer l'harcèlement dont ils sont victimes et aussi même les refus d'avancement en grade et aussi la non-facilitation pour le travail d'une femme et l'exigence qu'on voudrait donner au travail de la femme qui doit faire un travail double pour qu'elle soit considérée. Et ces femmes sont en train de dénoncer. Hier, merci. Elles ne dénonçaient pas. Aujourd'hui, elles dénoncent. Et les hommes aussi sont en train de dénoncer. Et ça, c'est une très bonne avancée.
Merci.
Nous souhaiterons qu'il y ait maintenant des sanctions.
Merci. Godé Kayembe, vous êtes président du conseil d'administration de la Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves, l'ISADEL en sigle. En cette journée d'élimination de la violence à l'égard des femmes et de la jeune fille, comment réagit la l'ISADEL au regard des cas, n'est-ce pas, des violences à l'endroit de ces femmes et de ces jeunes filles qu'on enregistre tous les jours dans ces pays en RDC?
Oui, merci beaucoup, mon ami, pour m'avoir fait l'honneur de participer à cette activité. Je voudrais d'abord saluer Excellence Madame la Ministre, aussi Madame Bataïba, bon, pour toute la part à cette activité. Je voudrais d'abord vous dire quelque chose qui vous, peut-être qui va vous surprendre. Le problème que nous avons des violences dans notre pays, au regard de l'expérience que j'ai de 25 ans d'existence, c'est la banalisation. Nous sommes dans un pays où on banalise les violences. Quand vous regardez même les textes qui régissent ces violences, il y a une banalisation. Vous allez constater que la loi portant protection de l'enfant, cette loi protège les enfants auteurs de violences. Du bout en bout, elle protège les enfants auteurs de violences contre les autres enfants. Mais les enfants victimes, ils n'ont aucune protection. Dites-moi dans cette loi-là, posez la question au ministre, madame la ministre, la victime, quelle est sa part? Tout le monde se préoccupe à dire, non, c'est un enfant qui a violé. Mais les sorts de l'enfant qui a été violé, mais qui, il est quoi? Qu'est-ce qu'il devient? Personne n'en parle pas dans la loi. Vous allez constater que nous aussi, la loi, c'est la violence sexuelle. On dit que si quelqu'un viole, que les jeunes gens violent un enfant, un autre enfant, effectivement, ils l'ont tué, mais s'ils sont en groupe, ce sont les enfants. Quelle mesure l'État prend pour indemniser cet enfant? Il n'y en a pas. Donc, c'est la banalisation. Je crois que pour régler le problème des violences au Congo, ce n'est pas le problème des sensibilisations. Madame, je vous en prie, je m'exprime en faux contre cette démarche. Je l'ai dit toujours. Notre malheur au Congo, c'est de vouloir faire nos textes avec le fonds de l'étranger. Parce que je constate quand on veut faire une activité de réforme, on recourt aux étrangers et les étrangers ont leurs critères. Ça ne nous permet pas d'intégrer, de faire une loi spécifique pour les Congo. Aujourd'hui, à l'étranger, quand pour y mettre fin aux violences sexuelles, à l'étranger, on ne sensibilise pas les gens, les violés par les femmes, mais pas la créature, la femme attire l'homme, le mature la femme, mais pour mettre fin aux violences, on met le mécanisme, on met la loi, on sanctionne de manière sévère, exemplaire. Aux États-Unis d'Amérique, lorsque tu as violé une femme, tu es le plus malheureux. Parce que quand tu violes une femme qui n'a pas moins de 25 ans, on te met dans le cachot des homosexuels. Lorsque tu sors, tu es pasteur. Tu commences à prêcher aux gens, et il ne faut pas violer. Sinon, en prison, là, vous allez être esclave. Mais dans ce pays, un violeur, on le considère comme monsieur sérieux, on le met dans un cachot. Donc dans le cachot, il faut respecter les normes. Dans un pays où les gens ne sont pas éduqués comme les Congo ici, où l'école n'a pas été accessible, où les ce qu'on a mis à l'école n'introduit pas, ne donne pas la possibilité aux gens de s'occuper de leur pays. C'est dans ce pays-là, on dit, on arrête un violeur, on le met dans les conditions où quand il sort, mais j'étais en prison, rien ne m'est arrivé. Donc, moi, je pense que c'est au niveau de la loi et de sa mise en application. Tous les partenaires qui viennent à notre pays pour plaider, pour travailler sur la question des violences sexuelles, sur la question des violences faites aux femmes, on vient, on investit des millions de dollars dans la sensibilisation. Mais rien n'est investi pour mettre fin ou pour réduire les violences. Je comprends que tout le monde travaille pour la pérennisation de leurs activités. La santé de la femme devient une marchandise. On s'est dit, si vous voulez y mettre fin, qu'est-ce que nous allons devenir demain? Il faut que ça continue. Comme ça, on a la possibilité de créer des programmes. Je vous en prie, les violences augmentent chaque jour.
Vous parlez de cette banalisation des violences faites à la femme et à la jeune fille. Vous observez l'évolution, n'est-ce pas, du phénomène et de toutes les formes de violences, violences physiques, violences verbales, violences sexuelles, économiques et professionnelles. Et quelle est la forme qui semble dominer dans notre pays?
C'est la violence sexuelle qui prend le 80% des violences faites à la femme. Violence sexuelle. Et quand vous allez en prison, vous allez constater que la plupart des prisonniers sont des violeurs. Faites le statistique, vous allez le constater. Donc c'est la violence sexuelle qui prend le dessus, au moins 80%. La majorité des dossiers. J'ai reçu plus de 1000 cas dans les dossiers à Kinshasa. Plus de 1000 dossiers dans notre bureau. Mais c'est trop peu, la majorité. Les dossiers sont les dossiers des femmes et 90% sont les dossiers des enfants. Les enfants, même les enfants. Madame a parlé de l'enfant de 7 mois. Moi, j'ai les enfants d'un mois qui a été violé. Donc, les violences sexuelles, on le fait chaque jour. Et malheureusement, le répondant, le magistrat, qui doit pouvoir appliquer la loi, il regarde dans la loi, il y a des insuffisances. Et c'est limite, ça, c'est ces insuffisances. Mais il ne recourt pas au sentiment pour se dire, mais en fait, les comptes, si ce serait mon enfant, si ce serait violé, quelle serait mon attitude? Il se contente de dire que là, le type, il libère l'auteur. Mais ce sont les violences sexuelles qui prennent le dessus. Mais malheureusement, l'approche pour y mettre fin, c'est ce que nous déplorons.
Ah, donc vous déplorez plutôt l'approche. Hein. Vous allez essayer de nous proposer l'approche que vous estimez la plus efficace dans la deuxième partie de cette émission. Et vous avez, n'est-ce pas, déploré la faiblesse de certaines lois, notamment la loi portant protection des enfants. Vous dites que cette loi, à travers cette loi, on protège plutôt les auteurs des violences et pas les victimes. Alors, lorsque vous avez constaté cette faiblesse, qu'est-ce que vous avez envisagé de faire à l'endroit des députés ou du gouvernement pour que ces genres de lacunes soient corrigées?
Nous avons fait les plaidoyers parce qu'en fait, l'initiative de la révision de la loi doit être prise par le ministère du genre. Le ministère du genre qui a même initié des ateliers pour la réforme, pour la révision. Mais ce que je constate, c'est que souvent, on aligne les gens qui n'ont pas l'expérience du terrain. Ce sont soit les administratifs qui font des théories, soit les avocats, les magistrats qui n'ont rien à faire, mais comme généralement, ils ne donnent pas les arguments ou les éléments qui peuvent aider à avancer. Donc, ils tiennent compte des textes internationaux. Dans ce pays, ils n'ont pas à tenir compte. Mais on doit quand même avoir des dispositions spécifiques qui doivent pouvoir concourir à la protection de nos sœurs et nos femmes, et qui doivent être spécifique pour le Congo, afin que les auteurs, lorsque vous tombez dans, dans cette situation, vous puissiez y sortir avec une mentalité qui a changé, qui permet le changement global de la société.
Merci. Béatrice Loméa, par rapport à ces sujets, il y a eu beaucoup de réactions de la part des auditeurs. Hein. Chacun a essayé de donner son point de vue. Et vous allez écouter cet auditeur qui nous appelle de Kananga au Kasaï central. Vous allez réagir à sa réflexion.
Moïse Thiéhi, depuis la ville de Kananga au Kasaï central. Nous saluons cette lutte contre la violation faite à la femme et à la jeune fille de la RDC. De leur nature, les femmes ont été toujours faibles et vulnérable. Que l'État congolais soutient les ONG, les organisations qui militent cette affaire pour mettre fin à des violations faites à la femme. Nous voulons également entendre qu'il y a des organisations qui luttent contre les violations faites aux jeunes garçons et à l'homme. Parce que beaucoup de jeunes garçons sont victimes et violés d'une et d'autre manière, mais personne ne plaide leur cause.
Oui, Madame Béatrice Loméa.
Oui, j'ai suivi Moïse de Kananga. Effectivement, il a raison pour dire que la lutte vaut la peine. Il faut soutenir les femmes, pas puisqu'elles sont faibles, mais pour dire qu'ils sont, ce sont des personnes à part entière. En tout cas, le genre humain est constitué des hommes et des femmes, donc il n'y a pas de raison que les droits d'une partie continuent à être violés. Mais par rapport aux violations faites aux jeunes garçons, on parle du genre. C'est pourquoi lorsque nous évoquons même la question des survivantes et des violences basées sur le genre, on parle des survivants et survivantes. C'est vrai, la proportion des femmes concernées par ces violations est énorme, mais dans une moindre mesure, il y a aussi des garçons, il y a des hommes. C'est pourquoi il y a l'aspect genre qui est pris en compte. Donc, les garçons ne sont pas totalement oubliés. Et chaque fois qu'on évoque la question, on parle de l'aspect genre et parlant de genre, nous parlons des femmes et des hommes. Même si tenant compte de la proportion, c'est plus les femmes qui sont concernées en grand nombre.
Oui, oui, madame, n'est-il pas utopique de penser combattre efficacement ces phénomènes de violence faites à la femme et à la jeune fille dans un pays comme le nôtre, caractérisé par la multiplicité des groupes armés qui font du viol une arme de guerre? Vous ne pensez pas qu'il faudrait plutôt promouvoir une approche multisectorielle parce qu'il n'y a pas que votre ministère, n'est-ce pas, qui devrait se pencher dans cette lutte?
C'est vrai, l'approche doit être multisectorielle puisque lorsque nous parlons de ces violences, on prend en compte et ça concerne en même temps le ministère des droits humains, la justice, la santé. Mais il faut noter aujourd'hui que ces violences ne sont plus l'apanage seulement de la partie du pays où il y a des groupes armés. Aujourd'hui, nous vivons un phénomène, même dans des endroits pour n'évoquer que le cas de Kinshasa. En tout cas, c'est l'ensemble du pays qui est concerné par cette question des violences sexuelles et celles basées sur les genres. Et je pense que, comme vous avez dit tout à l'heure, la question est effectivement globale. Et lorsque nous prenons cette question, nous disons qu'effectivement, l'implication de nos autres collègues qui ont ses responsabilités. C'est pourquoi nous avons toujours dit que ce n'est pas une lutte que le ministère du genre peut mener seul, puisque c'est vraiment un ensemble et la lutte doit être globale et vous avez tout à fait raison.
Madame, depuis que vous êtes à la tête de ce ministère, quelles sont les démarches que vous avez tenté de mener, n'est-ce pas, pour tant soit peu dénoncer et combattre l'impunité dont jouissent les bourreaux?
Dénoncer, bien sûr, mais le premier travail que nous avons fait, c'était d'abord aussi important d'actualiser l'outil que nous avons pour la lutte. Puisque la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre que j'ai trouvé de 2012 était déjà dépassée, puisqu'il faut dire qu'à ce temps-là, effectivement, elle a été axée sur la partie est du pays où il y avait effectivement la guerre. Mais il était important que nous puissions actualiser l'outil qui va nous servir de la lutte. C'est comme ça que je parlais de l'adoption par le gouvernement il y a à peine quelques mois de la stratégie révisée. C'est déjà un document important où nous avons, par exemple, élargi la panoplie de ces violences, puisqu'à son temps, on faisait attention rien qu'aux violences sexuelles. Alors qu'aujourd'hui, nous parlons des différents types de violences qui touchent la femme, et s'il faut citer à titre illustratif, nous avons, par exemple, les violences conjugales, les violences domestiques dont on parle tout à l'heure. Il y a des dénis d'héritage, il y a des problèmes de succession, il y a l'harcèlement sexuel dans la vie publique et privée. Donc aujourd'hui, nous avons déjà un outil actualisé qui va donner effectivement la matière pour la lutte. mais aussi à ce qui concerne la prise en charge des survivants. Aujourd'hui, nous avons les centres intégrés de services multisectoriels qui ont été plus l'effet des partenaires. Aujourd'hui, je suis en train de finaliser un décret qui va être pris par le Premier ministre pour que ces centres soient institutionnalisés, pour que la République ait la responsabilité, effectivement, de prendre en charge de manière holistique les victimes de ces violences basées sur les gens. Donc, c'est le travail qu'on est en train de faire, bien sûr, avec les partenaires, les ONG de la société civile qui sont aussi très actives sur toutes ces questions.
Merci, Madame Eve Mazaïba. Vous allez réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle du Kasaï Central.
C'est un espace peut-être moins pour Akananga dans la province du Kasaï Central. À mon avis, la lutte contre les violences faites aux femmes en RDC est concrète, d'autant plus que beaucoup d'associations et mouvements de femmes, voire même des hommes, mènent tous les jours cette lutte, surtout pour promouvoir les droits et libertés des femmes. Et nous plaidons toujours pour que les auteurs des violences faites aux femmes soient poursuivis et déférés devant les juridictions compétentes pour l'éventuelle condamnation.
Madame Eve Mazaïba.
Oui, que ce soit l'intervention de notre frère compatriote Mouefou de Kasaï Central ou de M. Godet que je salue et je félicite surtout son implication, son engagement à lutter contre ces formes de violence faites aux femmes, notamment les enfants, depuis plusieurs années. Tous ont raison. Le grand problème que nous avons, justement, c'est la banalisation. Je vous ai dit, c'est comme si, lorsque nous dénoncions, il y en a de nouveaux présumés auteurs qui viennent, qui veulent expérimenter comment ça se passe, les violences faites à la femme. Parce que avant, les violences sexuelles étaient localisées quelque part là où il y a des troubles, des conflits armés. Mais maintenant, ça s'est répandu sur toute l'étendue du territoire, même en temps de paix, même en famille. Et surtout qu'il y a maintenant des dénonciations de plus en plus. Nous commençons à voir des cas bizarres, hein, des enfants. Et souvent, on s'apprenait aux victimes pour dire que ce sont des allumeuses. Il y a peut-être des jeunes filles qui portent des habits pas décents pour essayer d'attirer l'attention en elles, que les victimes, on les condamnait être des provocatrices. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle des cas de viol des femmes, et des petites filles, je me demande, la petite fille de 7 mois, d'un mois, comment elle devait se comporter pour qu'elle ne soit pas, violée. Ça, c'est une situation très grave. Donc, ce genre de cas, il faut vraiment qu'il y ait des sanctions exemplaires. C'est la lutte contre l'impunité qui doit nous aider à mettre fin à ce genre de violences.
Madame Mariba.
Oui.
Oui, vous avez évoqué les avancées considérables sur le plan des textes des lois. Et vous venez de suivre M. Godet Kayembe, lui qui décèle, n'est-ce pas, des faiblesses dans ces différentes lois. Il a évoqué notamment la loi portant protection des enfants. Et il a aussi évoqué des textes qui sont souvent calqués sur les réalités des sociétés étrangères, pas sur les sociétés de la RDC. Est-ce que vous ne vous sentez pas interpellé, vous qui proposez et votez les lois au Parlement?
Je ne peux pas parler en termes de me sentir interpellé. Vous savez, ce sont des matières sociales. Il y a toujours des évolutions. Vous avez entendu Madame la ministre dire qu'à un moment donné, on s'est focalisé sur tel type de violence. Maintenant, il y a une évolution, il faut actualiser. Lorsque cette loi a été proposée, et lorsque, par notre personne, nous avions examiné cette loi, nous pensions que ça pouvait répondre à la situation du moment. Et s'il y a des dispositions qui marquent la réalité, il n'y a aucun problème. L'expertise de M. Kayembe est la bienvenue. Nous pouvons toujours amener à l'amendement, à devoir chercher la modification des lois. Nous sommes disposés à le faire. Mais calqué sur le modèle de l'étranger, bon, je ne sais pas trop, peut-être en termes de stratégie, nous voyons nos réalités à nous. Le modèle de l'étranger, ça serait peut-être par rapport à des violences conjugales. Lorsque nous dénonçons les cas de violences conjugales, de violences sexuelles d'une femme mariée, elle a souvent du mal à aller dénoncer. Justement, quand elle dénonce dans sa famille, chez les parents ou chez les amis, on lui renvoie à dire que nous sommes des Africains, elle doit consommer son mariage. Une femme malade, une femme en période de menstruation, une femme fatiguée, elle n'a pas le droit de dire non, parce qu'après, elle deviendra une femme battue. Donc, je ne sais pas, à ce moment-là, lorsque la femme dénonce, on va dire qu'elle veut agir comme les étrangers. Non, là, elle est en train tout simplement de réclamer son droit. Et là, ça rentre même dans les droits de la santé, de la reproduction. Ça, c'est aussi une matière très, très importante dont la femme, souvent, est comme victime. Mais bon, comme je l'ai dit, l'expertise de M. Kayembe est la bienvenue. Nous pouvons toujours revenir dans des ateliers pour voir qu'est-ce qu'il faut pour notre pays. Mais pour le moment, les lois qui sont là, si elles sont mises en œuvre correctement, que ce soit par tous les praticiens des droits ou alors au niveau des cours et tribunaux, je pense que nous allons avoir des avancées. Les grands problèmes, c'est au niveau des praticiens des droits qui n'osent même pas procéder à l'invocabilité parfois des normes internationales. Hier, nous avions eu des problèmes avec le code de la famille. Aujourd'hui, nous avons des avancées. Le code de la famille a été modifié. Hier, nous avions eu des problèmes avec le code du travail. Aujourd'hui, le code du travail a été harmonisé. Je pense que ce qu'il nous faut, c'est la mise en œuvre correcte des lois et aussi la sanction de manière exemplaire, pas des sanctions de complaisance, et aussi au niveau des cours et tribunaux, des praticiens des droits, de lutter contre la corruption, parce que moi, je ne me vois pas en train d'être corrompu par une personne dont les preuves sont là, prouvant qu'elle a été auteur des cas de viol, et que demain, après-demain, vous puissiez voir
Merci.
Cette personne dans la rue. Là,
Merci.
C'est pas correct.
Merci, M. Godé Kayembe. Vous allez aussi réagir à cette réflexion qui vient de Kisangani, dans la province de la Tchopo.
Henri Kangoumou, dans le pays de Kisangani, dans la province de la Tchopo. Parce que la femme elle-même n'a pas conscience de ce qu'elle est, elle continuera toujours à être victime de violences. À mon avis, la prise de conscience de la femme reste un défi majeur à relever afin d'éradiquer toute forme de violence faite aux femmes. Je salue cette campagne et je demande aux femmes d'y adhérer.
Monsieur Godé Kayembe, je ne sais pas si vous avez bien suivi l'auditeur.
Oui, j'ai bien suivi notre ami de Kisangani. Je crois que ça, ce sont des alibis. C'est comme madame vient de dire, quand on viole un enfant de 7 mois, un enfant d'un mois, qu'est-ce qu'il y a sur l'homme pour arriver à faire ça? Donc, il n'y a rien de confiance. Le problème des violences sexuelles au Congo, c'est le problème, comme on l'a dit, c'est un problème de culture, mais pour y mettre fin, il faut des sanctions. Parce que la sanction enseigne. C'est la sanction qui doit enseigner. Si vous avez remarqué vous-même que lorsque madame Mabunda était conseillère spéciale, au moment où il a organisé les audiences foraines dans les milliers de militaires, qu'il y a eu des colonels qui étaient sanctionnés, qui avaient violé l'aide, vous avez remarqué qu'au niveau de l'armée, les violences ont baissé. Les militaires ne violent plus de femmes. C'est parce qu'il y a eu des sanctions. Moi, je ne pense pas que pour que les violences cessent à la droite de la femme, il faut que les femmes aient la confiance en elles-mêmes. Ça n'a rien à faire.
Donc, vous êtes du même avis que Mme Bazaïba qui pense que pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes et à la jeune fille, il faut notamment des sanctions exemplaires.
Il faut des sanctions. Imaginez-vous, moi, si j'étais à la place du chef de l'État pour mettre en forme bien sexuel, j'appelle les gens au stade, vous avez violé une femme, je viens au stade, on vous coupe les fesses. Vous allez vous rendre compte que les autres ont peur. C'est cette peur-là, cette peur qui va arriver à faire dans la tête des gens. Donc, les gens ne peuvent pas être laissés en train de violer les femmes. Et puis, on va en justice avec un magistrat qui commence à vous inventer des choses pour justifier ce qu'il a perçu comme l'argent dans la poche pour libérer l'auteur, et ou sinon les auteurs potentiels, ou se rendre compte qu'il n'y a rien. Donc, dans tous les pays où il y a laxisme, où il n'y a pas de sanctions sévères contre les auteurs de violences sexuelles, des violences faites aux femmes, ça ne peut que continuer.
Pourquoi il n'y a pas de sanctions sévères?
Première chose, il y a de mauvaises lois. Les lois ne sont pas très sévères en elles-mêmes. Deuxièmement, nos magistrats, la majorité, sont corrompus. Parce que quand ils reçoivent les dossiers des victimes, pour eux, c'est une opportunité pour devenir riches. Troisièmement, la manière dont on traite les auteurs de violences sexuelles dans des milieux carcéraux, ce sont des milieux où ils devaient aller. Quand il viole une femme, quand il arrive dans ce milieu-là, il vit l'enfer en prison. Et quand il sort, il devait pasteur. Troisièmement, il fallait que dans notre pays, ce que j'ai dit, que notre enseignement soit adapté. L'enseignement au niveau de l'école maternelle, au niveau de la famille, on doit dire à l'enfant, au garçon, que la femme, c'est une reine. Il a besoin d'une protection. Dans la tête de l'enfant, quand il va grandir avec ça, l'enfant sait qu'il a l'obligation de protéger la femme. Aussi, il faut créer une loi. J'en avais parlé une fois avec Mme Bazaïba. Je lui dis qu'il faut que vous puissiez imaginer une loi qui rend le respect de la femme une obligation légale. De telle sorte que la femme, si même si vous touchez une femme au bras, et vous pouvez, de manière sexuelle, il peut vous entraîner en justice, et ne pas avoir raison. Il faut que les hommes sachent que le respect de la femme, c'est une obligation légale. Donc, il faut faire une loi de cette manière qui peut être vulgarisée, mais en même temps, au niveau des écoles maternelles, primaires, que les enfants puissent être cultivés avec une autre vision. On aura une génération de gens qui ne sont pas violents. On recueillera du respect de la vie des femmes. Cette histoire des cultures va disparaître.
Merci, Madame Béatrice Loméa. Vous, en tant que ministre, qu'est-ce que vous proposez pour que l'on puisse lutter efficacement contre les violences faites aux femmes et à la jeune fille en RDC?
D'abord, la sensibilisation. Il faut continuer avec la sensibilisation parce que je dis, d'une part, c'est une question liée à nos coutumes, mais il y a des provinces où vous trouvez que c'est vraiment des situations normales. Il faut travailler sur ça. Mais nous avons dit qu'il faut également que cette sensibilisation soit intégrée au niveau de l'enseignement. Et c'est là où nous parlons de la responsabilité qui est multisectorielle. Il faudrait que déjà dans notre système éducatif, nous puissions effectivement intégrer un enseignement qui prend en compte l'aspect genre, où les garçons dès le bas âge savent et sont d'accord de dire que bon, nous évoluons avec nos sœurs dans le futur, les pays, en tout cas l'avenir du pays en dépend, mais aussi au niveau des familles. Donc c'est une question, c'est vrai, la responsabilité du gouvernement, mais les familles, c'est à plusieurs niveaux et nous travaillons pour que d'abord la sensibilisation, parce qu'il faut que les gens soient informés, il faut qu'ils aient la manière pour penser, changer les attitudes. Et après, en aval, il faut aussi que la justice fasse correctement son travail pour décourager les potentiels bourreaux. Puisque tant qu'il y aura aussi l'impunité, nous pouvons travailler. Mais lorsqu'on ne sanctionne pas ceux qui commettent effectivement ces violences, ça sera un cercle vicieux. Donc c'est un travail de longue haleine et nous continuons à nous y impliquer.
Et quel est votre mot de la fin?
Le mot de la fin, c'est dire que c'est un moment important, la campagne de 16 jours d'activisme, qui concerne pas seulement les femmes, les hommes et l'ensemble de la communauté, pour dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la communauté, le pays est composé des hommes et des femmes. Il est de notre devoir de respecter tout ce qu'il y a comme droit des femmes, puisque ce sont des droits humains. Ne pas les respecter, c'est retarder le développement du pays. Et donc, nous allons continuer à sensibiliser, mais il faudrait que chacun devienne ambassadeur de sensibilisation pour que finalement la question, chacun s'en imprègne et que demain nous puissions effectivement assister à la baisse, si pas à l'éradication de ces violences des femmes et espérer un développement.
Merci, M. Godekayembe. Nous sommes à la fin de l'émission. Est-ce que vous pouvez conclure?
Oui, j'ai dit que nous avons le souci que les hommes puissent avoir des considérations vis-à-vis des femmes. La femme, c'est une personne qui a permis la perpétuation de la société. Tous les hommes viennent des femmes. Il faut que, dans la mentalité, que la protection de la femme soit une affaire de tous les hommes. Ça ne doit pas être une affaire de quelques individus, ça doit être une affaire de tout le monde.
Merci.
Protéger une femme, c'est une affaire, une obligation pour tous les hommes.
Merci, Madame Bazaïba. Votre conclusion?
Je crois que moi, je vais me baser sur l'éducation, inculquer la culture des respects des droits humains, des droits spécifiques des femmes et des enfants dès les bas âges, dans notre programme cursus scolaire de la maternelle jusqu'à l'université. Nous allons récolter un comportement civique, un comportement humain.
Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci à Madame Béatrice Loméa, Madame Eve Bazaïba et Monsieur Godé Kayembe pour avoir accepté de participer à cette émission. Merci à Mimi Kindou qui était à la technique, à Kéline Kouté et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission. À la présentation, Guy Maté. Merci et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.